Alors, Bederach, le livre s'appelle Bederach Adam Rotze, la lechet bamolichinoto. Le chemin qu'un homme choisit, qu'un homme veut, eh bien, on le conduit. En fait, c'est une gemara, c'est pas dans Makot Dafyud, c'est qu'on conduit l'homme dans le chemin qu'il veut. Comme on dit en français, vouloir, c'est pouvoir. En davar ormei bifnei ratzon. Alors, évidemment, vouloir ici, c'est pas le désir de vouloir désirer. Non, vouloir, c'est vouloir réellement. Prêt à s'investir, à sacrifier ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y arriver, ce que tu veux vraiment du fond de ton cœur. Top. Maintenant, comment ça marche? Alors, voilà, on va traiter de la volonté, de la parole, de la tefila, qui sont des éléments de base de la Torah, des bases de l'homme. Top. Alors, premier chapitre, Aïkoum. Aïkoum, c'est quoi? C'est l'univers. Alors, en effet, l'emblème de la science, un des emblèmes de la science, eh bien, c'est l'atome. Pas qu'il y a cette forme-là, plus ou moins. L'atome. Qu'est-ce qu'on a dans cette photo? On a ici un noyau avec des électrons qui tournent, n'est-ce pas? Ils ont fait ici un chat pour montrer qu'en fait, les électrons, ils ont eh bien, un mouvement circulaire autour de l'électron. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, bon, jusqu'à je sais pas, 100 ans, 100 ans, on ne savait pas ça. On a découvert ça avec le microscope, qu'en fait, la matière, eh bien, de quoi est-ce qu'elle est composée? Elle est composée de molécules. Et chaque molécule, elle est composée de plusieurs atomes. Premièrement, la molécule de l'eau, l'eau spécifiquement connue, c'est H2O. L'eau, n'est-ce pas? Eh bien, elle a deux molécules d'hydrogène et une d'oxygène. Donc, avec une forme spéciale, n'est-ce pas, qui sont accrochées comme ci, comme ça, eh bien, ça forme une molécule de l'eau. Alors, en fait, la partie la plus petite de la matière, c'est l'atome. OK, l'atome. Donc, l'atome, il est composé de quoi? D'un noyau et d'électrons qui tournent. Maintenant, il tourne dans plusieurs sens, avec une vitesse vertigineuse, une grande vitesse. La distance entre le noyau et l'électron, eh bien, elle est grandiose par rapport à la taille du noyau et de l'électron. Mais il tourne tellement vite qu'un ventilateur que, eh bien, le vide, il est rempli. Tout est condensé, n'est-ce pas? Tout est plein rempli. Comme si, eh bien, en effet, c'est une matière pleine. Mais réellement, le monde, c'est du vide. Voilà. Le monde, c'est du vide. Ça s'est prouvé de nous scientifiquement. Top. Et paraît-il que si on prenait même la tour Eiffel, eh bien, et la matière propre, c'est-à-dire de toutes les molécules, les atomes, c'est-à-dire que si tous les électrons s'arrêtaient de tourner, eh bien, tu pourrais introduire la matière propre de la tour Eiffel dans une petite boîte d'allumettes. C'est ce que les scientifiques prétendre, c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais bon, toujours est-il, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a dans la matière beaucoup plus de vide que de condensé, que de matière propre. Top. Alors, en fait, à cela, il y a une Gemara qui dit Chayga dafid bet. Tanya. Amar Rabbi Yossé, donc c'est une braïta de Rabbi Yossé. Oyelem labiriot cherot ve'enam yodot ma'en ro'ot omdot ve'enam yodot alma en omdot. Alors, il dit que c'est dommage, eh bien, les créatures voient, mais ne savent pas ce qu'ils voient. On ne se rend pas compte de la réalité de ce qu'on voit. Je veux dire que par rapport à cela, tu vois en fait une table, mais tu ne te rends pas compte que dans cette table, il y a plus d'espace que de matière propre, matière condensée. Dit le verset, « Yotzer harim ubore ruach ». Hachem, il a créé les montagnes, et il a créé le vent. Quel rapport? Les montagnes tiennent sur du vent. Ça veut dire quoi? Alors bon, un pshat dit, c'est que des fois, eh bien, une montagne peut être même ébranlée par un ouragan. Mais un autre pshat, presque on dit ici, c'est que même une montagne, pas qui est gigantesque, comme le Mont Blanc ou l'Everest, eh bien, en fait, il y a du vent. Il y a plus de vent que de matière propre. Regardez ici le Chafetz Chaim. Dans son Torah Tabayit Perekbet, Koach HaDibur ou Inyan Ruchani. La faculté de la parole, c'est quelque chose de spirituel. Venora Me'od Godel Poulato Lif'ol Anafsho. Et en fait, la force de la parole, elle est grandiose, elle a un impact grandiose sur l'âme de la personne. Kacher Bernou Bezapasouk, qui naît Yotze Harim ou Borer Ruach ou Magid le Adam Masecho. Comme dit le verset, eh bien Hachem a créé le vent, Hachem a créé les montagnes, et Hachem va dévoiler à la fin des temps Masecho, quelle était sa discussion, quelle était l'importance de sa parole. Quelqu'un il sort une parole de sa bouche, mais il ne sait pas quelle importance ça a. Kasher anurim shakesh bochu oset al ruach yesod laharim she'amdu alav yesh baruach koach chazak meod bishvil liot yesod. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la parole, le vent de la parole, c'est une base de l'homme, une base du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ruach, n'est-ce pas, ça vient du terme ruchaniut. Ruchaniut, on appelle ça spirituel. Et ruach, c'est du vent. Parce qu'en fait, le vent, n'est-ce pas, de la parole, comme dit Hafetz Chaim, c'est une notion qui est spirituelle. Alors, on sait bien, n'est-ce pas, que la Torah est composée de 613 mitzvot. Top. A Torah kula ikmo mapat starim amela be'ensof kodim. La Torah, évidemment, eh bien, c'est une, comme une carte qui est voilée, dissimulée, qui est pleine de codes. Kol siruf shel tzemed otiot viyoter kvar yotzer kod bal mashmaut. La kod shekaze yesh shimush bekol haTorah, klomar bekol makom baTorah shimtzu otiot boto tziruf tzkabel gam mashmauto shel haKod. C'est-à-dire que dans la Torah, on a des termes clés. Comme, eh bien, on sait que la sortie d'Égypte, c'est hyper important. La preuve qu'on en parle 50 fois dans la Torah. Matan Torah, c'est important. On n'en parle pas beaucoup dans la Torah. La Torah te dit, eh bien, il ne faudra jamais oublier cet événement du don de la Torah. Alors, par aussi, il y a certains codes dans la Torah qu'on va dévoiler et qui vont nous permettre de comprendre beaucoup de notions dans la Torah. Top. Qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien, c'est que le monde, n'est-ce pas, tient sur le vent. Même l'atome, la matière, en fait, c'est du vent, de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est Ruach? Alors, regardez ici un verset dans Ezra, Perek Aleph. Ubashana achat le koresh melech paras, le chalot dvar Hashem, li pier miyah et ir Hashem et Ruach koresh melech paras. Vous savez bien que Koresh, eh bien, c'était lui un des bâtisseurs, on va dire, du second temple, qui a donné la permission, n'est-ce pas, de revenir bâtir le temple. Et là, dit le verset, eh bien, une année après le royaume de Koresh, qui était le roi de Paras, après, n'est-ce pas, que Hachem avait parlé à Ermia, Hachem, il a éveillé le roi de Koresh, roi de Paras. Il a éveillé son ruach pour, eh bien, on va dire son esprit, on traduit ça, pour aller bâtir Beth Amidash. Et dit Rashi, et Hashem et ruach, ratson. Ruach, c'est ratson. Ruach, c'est la volonté. Hashem a éveillé, mais on traduit son esprit, dit Rashi, sa volonté. Hashem a éveillé en lui une volonté de vouloir bâtir le second Beth Amidash. Donc on a déjà ici un code, c'est que ruach, c'est ratson. Donc, Ruach, c'est Ratson, la volonté. Encore un verset dans Yeshua. Vanishma, vaimas leva venu, velo kama od, Ruach beish mipenechem. Alors, c'est lorsque Yeshua envoyait deux explorateurs avant de conquérir la terre d'Israël. Après le décès de Moshe Rabbeinu, Yeshua devait conquérir la terre d'Israël. Il a envoyé deux explorateurs. Et qui étaient N'pa Pinchas et Caleb. Et ils sont allés chez Rachav, elle les a hébergés, elle a demandé d'être sous l'aile de sa famille, et puis elle a raconté, elle leur a dit, eh bien, on est au courant de ce qui s'est passé, on a tremblé de peur d'Am Israël, velokamaod ruach be'ish mipenechem. Et personne n'est pas, n'avait plus de, il dit, un homme n'avait plus de ruach en face de vous. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi velo kama od ruach beish afilu lishkav imisha. C'est-à-dire, ils ont tremblé de peur, n'est-ce pas? Et même chez les hommes, il n'y avait plus de ruach de volonté, même d'avoir une relation avec une femme. Tellement ils avaient peur de Am Israël. Kanorim shamila ruach mevatet chiyut. On voit ici que ruach, ça veut dire une vitalité. une volonté, n'est-ce pas, mais au sens de vilaité humaine masculine. Kshanashim ha'abdim et haruach et achiyut mimela kavim etzlam kol haratzonot vatshukot afilu achazakim yoter. Quand quelqu'un, eh bien, il va perdre sa vitalité, sa motivation de vie, sa volonté, eh bien, toute volonté va être anéantie, même les volontés, n'est-ce pas, les vitalités les plus grandes de la vie, d'avoir une relation même avec une femme. Kenivdok sukim al ratson. Maintenant, on va voir d'autres versets qui parlent du ratson. Dans Dvarim, Lamed Gimel, ça c'est parashat, la dernière qu'on laisse Mechat Torah. Mi meged eretz umloa, urtson shochni sene. Urtson shochni sene. La volonté, n'est-ce pas, d'habiter, eh bien, dans un endroit qui s'habite sene. Rachidi ratson, nachat ruach vepius, vechen kol ratson sheba migra. Rachidi, qu'est-ce que c'est ratson? C'est quoi une volonté? Eh bien, c'est nachat ruach vepius. Avoir, on va dire, l'esprit calmé et apaisé, réconcilié. Et ainsi, chaque fois qu'on va trouver ratson dans un verset. Encore un verset dans Tehilim, Pekhe, qui a tatevaler tzadik Hashem katsina ratson ta'aterenu. Dit David Maler, toi Hashem, eh bien, tu vas bénir le tzadik, ratson ta'aterenu, tu vas le couronner de ratson, de volonté, et dit Rashi, ratson nachat ruach. Nachat ruach. Même efam me belaaz. C'est-à-dire, toi. Ratson nachat ruach, c'est l'esprit calmé, apaisé. Ruach, c'est ratson, et ratson, c'est ruach. Avec un élément de plus, c'est qu'on voit que nachat ruach. Donc chaque fois qu'on parle de ratson dans la Torah, Torah, l'imkutuim, c'est ruach, et ruach, c'est ratson.
Ah, okay. Vous dites ruach, est-ce qu'on parlait de ruach au niveau des niveaux d'âme, ou c'est un terme plus général pour décrire la
Ken, nachan, bonne question. En fait, on verra ça aussi. Mais puisque la question, on dit souvent qu'il y a trois dimensions d'âme: nefesh, ruach, neshama. Alors, nefesh, c'est la partie relativement la plus basse de l'âme, le niveau des instincts, des passions. Ruach, la partie intermédiaire, mais c'est là le siège de la volonté, de la dynamique, de la motivation, de la vitalité, ce qu'on a vu maintenant. Et Neshama au niveau, alors en effet, Ruach, c'est au niveau du cœur, essentiellement. Neshama au niveau de l'esprit. Là, c'est plutôt pas, c'est la compréhension, le fait d'imprégner, n'est-ce pas, une connaissance, de l'imprégner au pot, jusqu'au point de l'accomplir de façon spontanée, etc. On verra ça encore.
Il n'est pas forcément pur alors, parce que c'est au niveau du cœur, le cœur, il peut être trompeur.
Non, le ratson, bien sûr, il peut avoir un ratson pour une avéra, pour un vol, pour n'importe quoi. On parle ici de ratson, de volonté de vitaliser. Voilà. Donc, ratson, c'est ruach, et c'est quoi de passer aussi une vitalité. Et on a aussi un mot de plus, c'est que svut ratson, c'est nachat ruach. C'est quand, en effet, l'esprit est apaisé, calmé, c'est parce que ta volonté a été accomplie. Tu as été épanoui parce que tu as fait ce que tu as voulu faire.
Ah, c'est-à-dire que si on n'est pas épanoui dans notre vie, c'est qu'on a un manque.
C'est sûr qu'on a un manque. Alors des fois, le manque, il est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Des fois, on veut quelque chose, mais on n'arrive pas à le réaliser. Ou alors, des fois, parce qu'on n'a pas assez de motivation, de vitalité pour réaliser notre désir. C'est-à-dire que dans tous les cas, n'est-ce pas, eh bien, c'est la volonté qui est affectée, qui n'est pas bien établie, n'est-ce pas? On verra ça encore. Donc, Adam Alechayut, Retsunotav, Ushivotav, Azimoz. Quelqu'un qui est plein de vitalité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, eh bien, ses volontés, ses ambitions sont très intenses. Adam Shemabed et Triyuto, un homme qui va perdre sa vitalité. Arion Mabed et Tretzonotab, il va perdre sa volonté. Ukshiratson mitkayem, arelanu nachatoua. Et lorsqu'au contraire, ta volonté va s'exprimer, se réaliser, eh bien, tu es calmé, apaisé, n'est-ce pas? Tu es saveratson nachatoua, n'est-ce pas? Eh bien, tu as une satisfaction de ta volonté qui a été mise en place, qui a été réalisée. Donc, Neshanen, on va donc résumer. Et par la Kakodem, la Manu, Shekola, Alam, Kulom, Ushta, Bisodal, Ruach. Au début, on a vu auparavant, eh bien, que le monde est basé sur le vent, sur Ruach. עכשיו למדנו שהמושג רוח פירושו רצון. רוח זה רצון. על פי הנ"ל נוכל להגדיר מחדש. Donc en fait, on va pouvoir n'est-ce pas donner une nouvelle définition. המניע של כל העולם כולו הוא למעשה הרצון. Ce qui va en fait eh bien déclencher le mouvement du monde entier, eh bien c'est la volonté. La volonté qui est rouach, n'est-ce pas? Ça va déclencher le mouvement du monde entier. Echel me atom, en démarrant de l'atome, parce que l'atome aussi n'est pas constitué de vent surtout, de souffle, de vent. Ve'adechaye ayom yom, jusqu'à, n'est-ce pas, eh bien, la vie quotidienne de l'homme, puisqu'en fait, la vie de l'homme, eh bien, est basée sur ce que les hommes font par leur volonté. Et en fait, eh bien, c'est aussi rouach. Lelo haratzon, shum davar lozaz, shum davar le achol itkem. Parce que sans volonté, eh bien, un homme ne pourra rien faire. C'est bien souvent même des gens qui ont envie de rien faire, mais ils font. Ils se lèvent, ils vont manger. Pourquoi ils mangent? Parce qu'ils veulent manger inconsciemment. Pourquoi est-ce qu'il dort? Parce qu'il veut dormir inconsciemment. Tout ce qu'une personne fait, elle le fait par une volonté inconsciente, même si elle est très légère, mais encore une volonté de vivre et d'agir. Et cette volonté, n'est-ce pas, qui est Ruach Ba'adam, donc en effet, on a dit, le Ruach, c'est le siège, son siège est au niveau du cœur, eh bien, va motiver l'homme d'agir en conséquence. Et par aussi, l'univers, la matière, est constitué d'atomes, de molécules, eh bien, qui sont constituées de Ruach. On n'a pas encore vu encore le rapport entre les deux. On verra ça plus tard. כת נקבל הבנה מעמיקה בדברי הזוהר הקדוש. Donc le Zohar nous ramène un élément de plus. Le Zohar, je vous rappelle, vous le savez, ça a été rédigé il y a environ 1800 années par Rabbi Shimon Bar Yochai. Dit le Zohar הקדוש, פרשת בראשית, כל מילים דעלמא לא תלויים אלא ברעותה. Toutes les choses du monde ne dépendent que de la volonté. Ela berouta, que de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? על מה התכוון הזוהר כשאמר שכל הדברים בעולם לא תלויים אלא ברצון? האם התכוון על כל הסודות שעליהם נברא העולם או על חיי היום-יום כעת ניתן להניח שיש שתי אפשרות נכונות? Donc en fait, on parle ici de deux dimensions. Au niveau de l'homme, tout ce que l'homme va faire, va réussir, n'est-ce pas, va réaliser, à dépend de sa volonté. Évidemment, il faut rappeler que la volonté, c'est la volonté connue et inconnue, au niveau du conscient, au niveau du subconscient. Beaucoup de choses on fait sans savoir pourquoi. Beaucoup de choses on le fait sans savoir réellement qu'est-ce qui nous a amené à faire cela, à dire cela. Surtout quand c'est des actions qui sont spontanées, même des habitudes. Parce que inconsciemment, tu as une volonté que tu ne connais pas ou qui n'est pas assez définie en toi, qui te fait agir. Et cela, ça dépend de ta volonté intérieur. À part ça aussi, eh bien, puisqu'on a vu qu'il y a un parallèle entre Ruach et Ratson, et l'univers aussi est composé, n'est-ce pas, de vent, on va encore que ça veut dire, donc ça dépend aussi de cela. Il ramène aussi maintenant un passage de Moussar, de l'écouter Moharan, Rabbi Nachman. Qui est la sot shum davar qui im alede cheshek. Personne ne peut faire quoi que ce soit qu'avec une volonté. D'entre parenthèses, même si on l'a obligé à le faire. On l'a obligé à le faire, il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a la volonté de réaliser ce que la personne qui l'oblige à le faire, eh bien, l'oblige de le faire. Il veut accomplir sa volonté. C'est aussi une volonté en soi. L'Evachal, par exemple, que je mets d'Aber, Ezedibour, Tser, Shielo, Mitrila, Cheshek, Ezedaber. Quand une personne parle, il faut qu'a priori, elle veuille parler. Le kink chaussez et peula, il n'a yolo cheshek mitrila la sota, va dai la sota. Ou alors s'il fait une action, eh bien, on fait une action parce qu'il y a une volonté qui l'a précédée. Amaskana amid bakeshet. Donc la conclusion. Imadayom chashamnu shichayenuk fufim arverak leklale physika, chimia, biologia, vechadome. Si jusqu'à présent on pensait eh bien, que notre vie dépend uniquement des règles de physique ou de chimie ou de biologie, et on était persuadé de la véracité de cet élément, qu'est à présent la rachla manouche à isot chez le quoi est-ce d'autre baolam azé banoui al ratson ruchani biltiposek. Maintenant qu'on a appris eh bien, que tout ce qu'une personne fait eh bien, va dépendre d'une volonté spirituelle qui ne s'arrête pas. Et de cela, eh bien, va découler la vitalité au monde entier. Allez-nous, l'ishol et atzmenu. On pose la question, miwa kovia. Echan alinu lashkiat metav mashabenu. Aim bekol achukim shikano d'ayom, o shema baratzon. La question, est-ce que, à présent, il faut plus investir dans la volonté ou pas? Par exemple, si tu veux réaliser quelque chose, une thèse, une étude, tu as un projet. Alors, est-ce qu'il faut mettre le maximum d'efforts sur la programmation, sur la stratégie, sur, l'ordre des choses? Ou alors non, surtout sur la volonté. La volonté, de réaliser la thèse que tu veux, l'étude que tu désires. C'est sûr qu'il faut agir sur les deux. La question, où mettre le point essentiel?
L'autre, ça découle de la volonté.
Tu donnes déjà la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, parce que bien souvent, des gens, ils font des programmes et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de volonté. Le programme, il est là. Tu fais ton programme de la Yeshiva du matin au soir. OK. Mais on se lève tard, on vient en retard, on papote, on discute, n'est-ce pas? On prend un café, on prend une cigarette, on prend un téléphone. Pourquoi? J'ai le programme. Oui, j'ai décidé que je me lève et je fais, n'est-ce pas, ma tefila et mon étude de A à Z. Ça ne marche pas. Les gens, ils commencent une thèse, ils s'arrêtent au milieu. Ils ouvrent, n'est-ce pas, un magasin, ils s'arrêtent, ils le ferment tout de suite.
C'est de la paresse.
Parce qu'ils n'avaient pas assez de volonté. Tu dis de la paresse, c'est vrai. La paresse, elle vient par manque de vitalité, manque de volonté. Quelqu'un, il a une volonté, mais vraiment très intense, ardente à 100%, que rien ne peut arrêter. Il trouvera en fin de compte le programme. S'il y a un problème dans le programme, dans la gestion, il va tout de suite chercher et trouver le problème et la solution. Alors bien souvent, n'est-ce pas, un travail ne réussit pas. Une étude s'arrête au milieu. Beaucoup de choses que les gens commencent, font marche arrière, se découragent. Un examen qui est raté, on se décourage. Certains ne se découragent pas. D'autres se découragent. Pourquoi? La volonté. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, on doit miser sur la volonté beaucoup plus que sur la gestion et le programme. Et comme tu dis, lorsque la volonté elle est déjà bien établie, évidemment, la volonté, ce n'est pas « je veux », c'est un programme. C'est un programme, c'est un programme au niveau du conscient, du subconscient. C'est une prise de conscience de l'importance de ce que je veux réaliser, de la valeur de, en l'occurrence, la mitzvah, la Torah, la tefila. Tout ce que tu veux réaliser, quand tu as pris la conscience de l'importance de ce que tu veux, de ce que tu peux réaliser, là, tu es empli de volonté, de vitalité, et tu vas trouver le moyen de le réaliser.
Mais alors, en fin de compte, la volonté dépend de la emouna aussi.
Elle dépend de la emouna, c'est sûr.
La emouna, ici, quand on dit que rien ne peut se tenir devant le ratson d'un homme, s'il n'a pas la emouna, que ça va marcher, parce qu'il y a des galères. La volonté, c'est beau, mais il faut. Des fois, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous.
Tu dis, il faut aussi le ratson sans emouna, ça ne marche pas. Ok, tu as raison, il y a un chapitre là-dessus. Emouna. Tu nous ramènes un passage de Or Hizkel. Or Hizkel, c'est Rabbi Hizkel Weinstein, qui était un des grands rabbinim de la Yeshiva bien connue de Ponyovitch à Bnei Brak. Alors, il était rave là-bas il y a environ 50-60 ans. Alors, il a écrit plusieurs livres, un qui s'appelle Sefer Amidot. Od Yeshiteter Minan Amour, She'en Echa Davar Ahomed Bifnaratson. Bien connu, que rien ne peut se positionner en face de la volonté. On dit en français, vouloir c'est pouvoir. Kibet, shenafsho chafetza behemet, en lecha davar ahomet tirefto. Parce que lorsque son âme le désire réellement, de façon véridique, personne ne peut l'empêcher de réaliser son désir. Kibet, shenafsho chafetza, parce que lorsque l'âme de l'homme désire vraiment quelque chose, azai kochot nefesh sholtot à la gouffe. Va gouffe mit battel klapé à nefesh. Là, automatiquement, les forces de l'âme vont maîtriser le corps et le corps va s'annuler devant l'âme. Tu dis la paresse, c'est ça. Quand une personne est pleine de volonté pour réaliser quelque chose, eh bien, les forces physiques qui vont l'empêcher d'agir vont s'annuler devant l'âme. Kizoika avolatenu, parce que c'est en effet notre travail essentiel. Shetishlot anefesh alachomer aguf, que l'âme, eh bien, maîtrise le corps, la matière. Alors maîtriser, on l'a expliqué une fois, c'est pas refouler, c'est pas écraser, c'est maîtriser, c'est gérer, c'est diriger. Le corps faut en tenir compte, n'est-ce pas, évidemment. Le corps, il a, on voit, n'est-ce pas, on a mis à donner Shabbat dans la Torah, etc., à dire qu'on tient compte du corps, mais il doit être géré, maîtrisé, dirigé par la neshama, par l'âme. Ou be'et shenafsho en chafetza. Mais lorsque, eh bien, son âme ne désire pas, manque de volonté, azay, akochot vamidot sholtot sholtim ala gouf. Là, automatiquement, eh bien, c'est les forces physiques et corporelles, instinctives, qui prennent le dessus sur l'homme. Les azay tikvatom mouetet liskot les tuv bezoubaba. Et là, évidemment, il a peu d'espoir d'arriver à réaliser ce qu'il veut, n'est-ce pas, en Torah mitzvah dans ce monde-là, ainsi que pour dans le monde futur. Ufren atshuva ichad mashmeid. Donc, en fait, la réponse, elle est claire. Aratzon ou gadol meakol. C'est qu'en fait, pas la volonté, on doit miser le travail essentiel là-dessus. Donc, on a compris, n'est-ce pas, eh bien, que l'essentiel, c'est la volonté. Halev mechona leitzur retzonot. On va expliquer. C'est que le cœur, c'est une machine pour créer des volontés. Ça. On vient ici créer. Tu dis, oui, je sais que la Torah, c'est beau, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas de motivation. OK. Alors voilà. Comment créer la volonté, la motivation pour l'étude de la Torah, pour la mitzvah, pour la tefillah, parce que j'en ai pas, je n'ai pas envie, ça ne me dit rien. Comment créer? Je suis persuadé de la véracité, je suis conscient de l'importance, mais je n'ai pas assez de motivation. Comment le faire? Adam wa yetzira mufla biyoter b'briya. Évidemment, l'homme, eh bien, c'est la créature la plus intéressante, la plus prodigieuse dans l'univers. Adam urkav mi mataim arvimishmane varim. L'homme est constitué, eh bien, de 248 membres. Lorsque les membres essentiels, les plus vitaux, c'est évidemment, eh bien, le cœur et l'esprit. Alev ou ken kufsa amechila et kol retzonotav chukotav ushifotav. Alors le cœur, c'est comme une petite boîte, on va dire, qui compile en elle les volontés, les aspirations, les désirs de l'homme. En effet, ça, on peut même le sentir, n'est-ce pas? On peut le sentir. En effet, on a un sentiment au niveau du cœur. Des fois, c'est même physique, corporel. Au niveau du cœur, on sent un chagrin, on sent une joie, n'est-ce pas? Parce que le siège des volontés, des désirs, des joies, eh bien, c'est au cœur. Va moar ou aegé va veset sa visout ketsad le chalkel et tsadav. Le cerveau, l'esprit, eh bien, c'est comme le volant pour diriger et gérer ses pas. C'est-à-dire que le cœur, c'est le sentiment, n'est-ce pas, la volonté, mais évidemment, eh bien, il faut le diriger de façon sensée, de façon intelligente. Alors, je fais une parenthèse. On avait étudié une fois dans les choux, il ramène l'Agbar dans Sanhedrin, Tzadichet, que Antoninus, eh bien, était pas juif, était camarade de Rabbi Akadosh. Alors une fois, il a posé une question, il lui a dit, à la fin des temps, eh bien, l'homme pourra être exempté de la punition. Pourquoi? Parce que le corps va rendre fautive l'âme, et l'âme va rendre fautive le corps. L'âme dira, eh bien, depuis que j'ai quitté le corps, je suis comme un oiseau, n'est-ce pas, qui s'envole, je ne fais aucune faute. Et le corps dira, depuis que l'âme a quitté, je suis comme un cadavre, je ne fais aucune faute. Alors, Rabbi lui a dit, je vais te donner un exemple, sans se figurer. Un roi, il avait un verger extraordinaire de fruits exotiques sans pareil. Il a voyagé. Il a nommé deux gardiens pour ce verger, pour son voyage. Alors, comme par là, ces gardiens, l'un était aveugle, l'autre était boiteux. Top. Alors, quand le roi est parti, alors, l'homme boiteux a dit à l'aveugle, tu sais, je vois ici des fruits extraordinaires. Moi, je ne suis pas monté sur l'arbre, n'est-ce pas? Eh bien, toi, monte sur moi et on va, n'est-ce pas, prendre des fruits. C'est ce qu'ils ont fait. Top. Quand le roi vient, les fruits ont disparu. Où sont mes fruits? Et puis chacun, n'est-ce pas, a accusé l'autre. L'aveugle dit, moi, je ne vois même pas les fruits. Le boiteux dit, je ne suis pas grimpé sur l'arbre. Le roi, il a dit, eh bien voilà, il a mis un sur l'autre, les deux ensemble, vous avez volé mes fruits. Par aussi Hachem, eh bien, il remet l'âme dans le corps et leur dit, vous avez ensemble fait la vera. Alors bon, il y a ici beaucoup de leçons complexes à expliquer. Juste ce qui nous concerne, un élément important, ce qui nous concerne par rapport à ce cours-là, eh bien, ce que la Gemara nous décrit, le corps comme un homme aveugle et l'âme comme un homme boiteux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, elle est clairvoyante, elle voit tout, elle comprend tout, mais elle est boiteuse, elle ne peut pas agir. L'âme sans le corps ne pourra pas faire la mitzvot. L'âme ne pourra pas manger la matzah, faire la soukha, chenal le chauffard, n'est-ce pas? Aucune mitzvah. Le corps, c'est lui qui agit, faire la mitzvot, mais le corps, il est aveugle. Il ne voit pas ce qui lui est bon. Il ne voit pas, n'est-ce pas, s'il prend, je ne sais pas, de l'alcool, ou il fume beaucoup, il ne se rend pas compte que c'est nocif pour son corps et pour son âme. C'est l'âme qui est clairvoyante, qui va diriger, gérer le corps. Et par conséquent, donc en fait, le corps doit agir. Le corps, c'est comme un cheval, et l'âme, c'est un cavalier. Eh bien, le cavalier va diriger, il doit ne pas lâcher les rênes, diriger son cheval. S'il lâche les rênes, le cheval ira n'importe où, n'importe comment. Si tu lâches les rênes de ton corps, le corps fera n'importe quoi. C'est pourquoi, eh bien, un homme doit savoir gérer, maîtriser ses forces corporelles. C'est ce qu'il dit ici. Eh bien, l'esprit doit diriger. La neshama est dans l'esprit, dans le cerveau. Elle doit gérer, tu dois réfléchir avant d'agir. Ouais, je donne un exemple. Tu vas à une réception. OK. Alors, tu passes devant une table garnie, tu tournes la main, tu prends un gâteau, tu l'avales. Tu prends un chocolat, tu l'avales. OK. Une réaction qui est spontanée, sans réflexion. C'est instinctif. C'est pas mauvais. OK. Mais c'est instinctif, ce n'est pas une décision, n'est-ce pas, de l'esprit. Tu n'as pas réfléchi, ne serait-ce qu'une seconde avant, est-ce que je prends le gâteau ou pas? Ce n'est pas réfléchi, c'est instinctif. Et très souvent, on fait ça. Il a un cours dans Aléchour, il expliquera à Volbeck que tous les jours, on prend des centaines de décisions. Oui, non, noir, blanc, droite, gauche. Dans la plupart des cas, eh bien, ce n'est pas une décision. C'est instinctif. C'est spontané.
C'est préétabli d'Hachem.
Voilà. C'est-à-dire que c'est, non, pas, je dis autre chose. C'est pas préétabli d'Hachem. C'est ça manque de da'at. Ce n'est pas une décision eh bien, que ton esprit, n'est-ce pas, a réfléchi de façon sensée, de façon programmée. J'ai un exemple. Une mère dit à ses enfants, bon, aujourd'hui, vous ne descendez pas dans le jardin. Celui qui descend, il est privé de chocolat. OK. Alors, deux frères, un descend, l'autre ne descend pas. L'un choisit de jouer, l'autre a choisi le chocolat. Non, pas du tout. Personne n'a choisi rien du tout. Ce n'est pas un choix. Un choix, je veux dire, c'est exploiter la faculté qu'on appelle le libre arbitre. Enfin, un choix. Cet enfant préférait le chocolat que le jeu. L'autre préférait le jeu que le chocolat. C'est un choix instinctif, spontané. Qu'est-ce qui est pour toi, n'est-ce pas, plus important? La gourmandise ou alors le jeu? Mais autre cas, tu as envie d'acheter un gâteau à la pâtisserie. OK, parce que tu es fatigué, parce que tu as faim. Mais tu vas faire 5 km à pied sous la pluie, sous le soleil. J'y vais pas. OK, l'un y va, l'autre y va pas. Dans ces deux cas aussi, eh bien, peut-être qu'aucun des deux n'a réfléchi pour faire un choix, mais c'était une réaction instinctive. Est-ce que la gourmandise était plus forte que la paresse? Ou la paresse a pris le dessus sur la gourmandise? C'est-à-dire que très souvent, en fait, notre action, notre choix, c'est uniquement, eh bien, on appelle ça deux négiotes, deux facultés, deux caractéristiques qui te caractérisent. Est-ce que tu es plus gourmand que paresseux ou le contraire?
Qui a décidé ça? Qui a décidé ça?
Laisse la moula de côté. Non, pourquoi? Parce que tu ne fais intervenir pas un paramètre de taille, en effet. Maintenant, Hachem t'a laissé, n'est-ce pas, décider ça par rapport à tes facultés, par rapport, n'est-ce pas, à ton travail prémédité auparavant pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai aussi ce que tu dis, tu vois. Mais toujours est-il, c'est que dans ce cas-là, tu n'as pas utilisé ce qu'on appelle Kouach HaBechira, Kouach HaDat. Bon, je prends l'exemple, voilà. Maintenant, dans quel cas on va dire que oui, j'ai fait un choix? C'est que lorsque je prends le temps de réfléchir, lorsque d'abord je vais essayer d'être déconnecté de la situation donnée. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la situation, tu ne te rends même pas compte des forces instinctives qui agissent en toi. Tu dis « je veux ça ». Et tu ne sais pas, est-ce que c'est une volonté réelle qui est bien préméditée, bien programmée, ou alors c'est instinctif, parce que tout le monde le fait. Comme, je ne sais pas, c'est très courant, je ne sais pas, qu'en France, en terminale, alors beaucoup font médecine, parce que c'est à la mode, parce que des centaines font médecine, alors on y va. Enfin, peut-être qu'il a choisi, peut-être qu'il a réfléchi. Mais certains font beaucoup de choses sans réfléchir. Tu prends le gâteau parce que c'est instinctif, sans réfléchir, est-ce que c'est bon pour toi maintenant ou pas. Tu prends une décision, entre guillemets décision, et parce que c'est l'influence par hasard de quelqu'un que tu as rencontré une demi-heure avant et qui t'a fait changer d'avis, et tu n'as pas encore assez analysé ses propos. Si tu l'avais fait, tu t'es rendu compte qu'en fait, ce qu'il dit, ça ne tient pas la route. Tu as pris un produit au magasin parce que tu as vu 5 minutes avant une publicité du tonnerre qui t'a ébloui, qui t'a ébranlé. Et tu n'as pas réfléchi, est-ce que ce qu'il raconte dans la pub, est-ce que ça tient la route ou pas? Dans quel cas, j'ai vraiment fait un choix. D'abord, être déconnecté de la situation en question, comme si tu prends un hélicoptère pour te voir d'en haut. C'est dit ça, c'est Sefer Haredim, quand tu ne sais pas quoi faire, imagine qu'un camarade te demande conseil. Dis-moi, qu'est-ce que je ferais dans telle situation? Tu te mets à l'extérieur. Tu t'imagines qu'un camarade te demande conseil. Deuxièmement, il faut analyser le pour et le contre. Les éléments qui vont t'inciter à dire oui ou à dire non. Droite ou gauche. Et tu les analyses chacun séparément. Et après, tu transmets tout ça à ton esprit, à ton cerveau, ta réflexion. Tu prends le temps de réfléchir et tu prends ta décision. Maintenant, entre parenthèses, même si par hasard ta décision elle n'était pas la bonne, c'est pas grave. L'essentiel c'est que tu n'as pas agi de façon instinctive, de façon spontanée. Tu as été dirigé, géré par ton esprit, ta réflexion. Même si tu t'es trompé, quand tu vas t'habituer pendant des mois et des années à réfléchir, à ne pas agir de façon instinctive et spontanée, alors tu vas apprendre à connaître eh bien, la priorité des éléments dans ta vie, dans la Torah, dans la Halakha, dans le Moussar. Tu vas apprendre, n'est-ce pas, à analyser, à décortiquer, à comprendre, à décider, à prendre la bonne décision.
Des fois, ça peut être une bonne chose, Rab, de choisir spontanément. Par exemple, maintenant, moi, je veux faire attention à mes yeux, je sors dehors, et une fille, elle passe. J'ai un réflexe, genre, je ne réfléchis même pas, que je ne la regarde pas, ou je traverse, ou n'importe quoi.
Attention. Cette réaction spontanée, au contraire, c'est le fruit d'une réflexion que tu as eue auparavant, aujourd'hui, hier, avant-hier. Au contraire, ce que je dis, c'est le top. Le top, en effet, le top, c'est tu as tellement réfléchi, tu es arrivé à la conclusion claire, voilà, et bien que ta réaction spontanée va dépendre de ton da'at, ta réflexion. Ça, c'est le top, évidemment. Parce que je ne veux pas chaque fois, n'est-ce pas, réfléchir pendant un quart d'heure, est-ce que je fais ci ou ça. Voilà. Mais ça, il faut s'habituer à réfléchir. Comme ça, tu as déjà, n'est-ce pas, des codes, des règles de ta vie. Voilà. Est-ce que je fais oui ou non? Est-ce que je regarde ou pas? Etc. C'est le top, en effet. C'est le mieux. Tu veux dire, donc qu'est-ce qu'on dit donc? Le cœur, n'est-ce pas, c'est le siège des sentiments, de la volonté, de la dynamique, la motivation. Il le faut absolument. La vitalité, elle vient du cœur. À mon avis, n'est-ce pas, c'est hyper important. C'est ce qui va nous diriger, nous motiver. Mais attention, le cœur, il a ses dangers. Parce qu'il a son instinct. Il doit être dirigé par l'esprit. Il doit, n'est-ce pas, eh bien, programmé par l'esprit, par la réflexion. Maintenant, comment on verra ça, Tatachem, prochain cours.